Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Monseigneur Ayé, bonjour.
Bonjour.
Nous voici rassemblés pour cette émission diffusée sur Radio Présence et sur Radio Lapourdi. Alexandra Guerre, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, cette année, puisque nous venons d'entamer une nouvelle année, va être une année un petit peu spéciale, l'année sainte pour le jubilé. Alors, Monseigneur, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est qu'un jubilé, à quoi ça sert, d'une certaine manière?
Bon, un jubilé, c'est pour jubiler, comme son nom l'indique. En fait, c'est hérité de la tradition de l'Ancien Testament, où il y avait des années jubilaires qui étaient des années un peu de, on va dire pour parler simplement, de remise à niveau. Et d'une certaine manière de remise de dette, très important ça. Et quand le pape parle de remise de dette, il parle sans doute, comme saint Jean-Paul II, de cette dette des pays pauvres qui devrait être remise par les pays riches, comme à chaque jubilé, le pape en fait la demande officielle, mais c'est surtout la remise des dettes intérieures que sont nos péchés. Hein, l'année jubilaire qui a été instituée par le pape Boniface VIII, en 1300, pour être célébré tous les 25 ans, est une année où nous cherchons à remettre notre vie chrétienne à niveau, et en particulier à nous laisser réconcilier avec le Seigneur, selon l'exhortation de saint Paul, et d'une certaine manière à revenir vers le Seigneur pour nous détourner du péché. Voilà, c'est le sens profond qui a d'ailleurs été introduite par l'Église, encore une fois en lien avec la grande tradition des années jubilaires de l'Ancien Testament, mais par les papes précédents Boniface VIII, qui ont proposé des années de grand pardon, qui consistaient en une espèce de pèlerinage vers un sanctuaire de la chrétienté, et pour demander non seulement de se réconcilier avec Dieu, mais de se réconcilier entre nous. Voilà.
Donc je pense que il y a différentes manières de le faire, en fait.
Alors il y a plusieurs manières de le faire, concrètement, et chaque fois, le pape donne un thème particulier. Cette année, pour ce jubilé de 2025, le Saint-Père a donné comme thème « Pèlerin de l'espérance ». Donc c'est sous le signe de l'espérance, qui est en effet une vertu théologale tellement importante, en particulier en ces temps qui sont troublés, marqués par beaucoup de maux, de tragédies, hein, qui affectent notre humanité d'aujourd'hui, de confusion aussi, qui peuvent affecter les chrétiens, et en particulier les catholiques, au sein de l'Église.
Alors pour cela, le pape a publié une bulle d'indiction. Quelles sont les grandes lignes de cette bulle, justement les grandes exhortations qu'il nous fait pour cette année sainte?
Alors cette bulle d'indiction, qui est intitulée « Spes non confundit », en latin ça veut dire « l'espérance ne déçoit pas », qui est tirée de l'épître de saint Paul aux Romains, au chapitre 5, dans lesquels saint Paul justement nous dit l'importance de l'espérance qui ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Voilà. Il va nous expliquer au cours de cette bulle d'indiction en quoi consiste l'espérance. Hein, pourquoi nous sommes dans l'espérance malgré les drames que nous connaissons, malgré les épreuves de la vie. Et en ce sens, nous sommes solidaires de nos contemporains, qui sont plongés bien souvent dans les ténèbres de la guerre, de l'inquiétude pour l'avenir, des précarités, des manques de repères aussi qui affectent particulièrement la jeunesse. Et donc nous sommes dans l'espérance parce que l'amour de Dieu a été infusé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Hein. C'est donc très très important de se dire que nous avons un Dieu qui est venu pour nous sauver. Nous sommes entrés dans le temps de l'Avent, qui est le temps par excellence de l'espérance, qui est le temps où nous nourrissons cette espérance, cette promesse que Dieu a faite à son peuple et qui s'est accomplie en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et c'est de cela que nous voulons être témoins très particulièrement au cours de ce grand jubilé, de cette année sainte, hein, sous le signe de l'espérance dont le monde a tant besoin. Et donc nous sommes appelés à être des pèlerins, mais aussi des témoins de l'espérance. Alors dans cette bulle, non seulement il nous dit quelle est l'espérance chrétienne et comment elle répond de manière très pertinente à la situation vécue par le monde d'aujourd'hui, mais il nous donne quelques indications et en particulier, il nous propose pendant cette année jubilaire de donner trois signes d'espérance au monde. Le premier signe, c'est la paix. On le comprend très bien dans le contexte de guerre que nous connaissons aujourd'hui, qui menace à l'échelle mondiale, même si elle est encore circonscrite dans des lieux précis de notre planète, mais qui se multiplie quand même aujourd'hui. La paix que nous demandons de toute notre âme, mais pour laquelle nous, pauvres fidèles, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Hein. Ce sont les grands de ce monde qui peuvent, à travers des négociations, à travers des mesures internationales, obtenir ou hâter cette paix.
On peut la vivre entre nous aussi.
Mais voilà, et c'est ça que je voulais dire principalement, c'est que la paix dans le monde naît d'abord de la paix dans nos cœurs. Hein. Et si nous ne sommes pas capables nous-mêmes de faire la paix dans nos familles, dans nos communautés, dans nos paroisses, dans notre environnement quotidien, comment la paix pourrait-elle advenir à l'échelle du monde entier? Et donc je crois que pour nous, dans le sens même d'une année jubilaire, comme je le disais, qui est une année de remise à niveau, de remise de dette, de réconciliation avec Dieu, avec les autres, eh bien nous préconiserons dans le diocèse comme moyen aussi de faire advenir la paix dans le monde et entre nous, eh bien, de démarches de réconciliation. Voilà. En se rappelant cette parole de Jésus dans le Sermon sur la montagne, chapitre 5 de saint Matthieu, où il nous dit, quand tu vas déposer ton offrande devant l'autel, eh bien, si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens, prends ton offrande et dépose-la sur l'autel. Donc je crois que nous proposerons des démarches concrètes dont chacun pourra être inventif de réconciliation avec telle ou telle personne dans notre entourage, dans notre vie ecclésiale, dans notre vie sociale qui pourrait avoir quelque chose contre nous.
Donc ça c'est pour la paix, ensuite il y a un deuxième signe.
Le deuxième signe d'espérance, c'est l'ouverture à la vie. Hein, vous savez combien le Saint-Père revient souvent sur ce drame de la baisse de la natalité, de cette incapacité que nous trouvons en particulier dans nos pays de vieille chrétienté, dans nos pays occidentaux, cette incapacité à transmettre la vie. Et le Saint-Père nous invite là à cette ouverture à la vie. Donc je pense que c'est à la fois une sensibilisation à cette grande cause hein, de la transmission de la vie, et peut-être des conversions aussi dans certaines familles, dans certains couples, de s'abandonner davantage à la providence et de moins se focaliser sur les inquiétudes de l'avenir qui ne nous appartient pas et qui précisément n'appartiennent qu'à Dieu.
Et enfin, le
troisième signe, c'est le soin porté à tous nos frères et sœurs qui vivent des situations profondes de détresse. Alors le Saint-Père nous donne une liste hein, de personnes sont en détresite, il les donne d'ailleurs dans un ordre qu'il a choisi. Il parle d'abord des détenus, et il propose d'ailleurs d'ouvrir, quant à lui, dans une des prisons de Rome, de manière très symbolique sans doute, une porte sainte dans une prison, sachant qu'il n'y aura des portes saintes que dans les grandes basiliques romaines, à l'occasion de ce jubilé. Et il parle donc des détenus, il parle des malades et des personnes handicapées, il parle des jeunes, dont il faut prendre soin parce que ils sont souvent dans une situation de fragilisation, de mal-être, hein, face en particulier à leur avenir et face aussi aux pertes de repères qui caractérisent notre société d'aujourd'hui. Il parle des migrants, bien entendu, il parle des personnes âgées et il parle de toutes les situations de pauvreté hein, qui existent, y compris dans nos sociétés dites riches, dont il faudra prendre un soin particulier. Vous voyez comment ça va certainement mobiliser l'inventivité, la créativité, qui est celle de la charité, dans notre diocèse, comme dans l'Église universelle. Il faudra qu'on ait des initiatives. Je disais pour le signe de la paix, bien des démarches concrètes de réconciliation entre nous. Pour le signe de l'ouverture à la vie, nous ferons un colloque le 29 mars prochain, à l'église du Bout du Pont que j'ai érigée comme sanctuaire de Marie refuge de la mère et l'enfant.
Donc à côté de Pau, Notre-Dame
à côté de Pau, près de Jurançon, voilà. Un colloque qui nous permettra de célébrer le 30e anniversaire de l'encyclique Evangelium Vitae, l'évangile de la vie, de saint Jean-Paul II, qui date du 25 mars 1995, autour de la personnalité aussi du professeur Lejeune, hein, qui était un grand défenseur de la vie, lui qui a découvert la, beaucoup de maladies, mais en particulier la maladie qu'on appelle la trisomie 21, et qui a été déclaré vénérable, hein, c'est-à-dire l'héroïcité de ses vertus, a été proclamée par le pape François, il y a 2 ou 3 ans, et donc ce seront le monsieur Jean Lafitte, qui est un fils de notre pays, qui viendra nous parler de cette encyclique. Il y aura Tugdual Derville, l'Alliance Vita, il y aura Jean-Marie Le Ménet, qui est le président de la fondation Le Jeune, avec Aude Dugas, qui est la postulatrice de la cause du professeur Le Jeune. Voilà. Et donc ça nous permettra de réfléchir à ce grand défi, hein, de la protection, de la dignité de la vie humaine depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle.
Et puis donc pour le soin envers les plus petits, est-ce qu'il y aura aussi des démarches?
Alors la diaconie va être particulièrement mobilisée pour essayer de susciter des initiatives au sein du diocèse, dans les paroisses, pour prendre soin qui des détenus, qui des pauvres sous toutes leurs formes, qui des malades. Nous avons des pastorales qui sont très engagées, hein, dans tous ces domaines, comme on le sait, et donc elles seront particulièrement mobilisées pour faire des propositions au cours de l'année sainte.
Donc on le rappelle, il n'y aura pas de porte sainte dans notre diocèse, hein, c'est vraiment seulement à Rome, mais il y a une ouverture officielle de l'année
sainte.
Voilà,
donc le pape a proposé d'abord que lui ouvre solennellement pour l'Église universelle le jubilé par l'ouverture de la porte sainte à la basilique Saint-Pierre du Vatican, donc le 24 décembre soir, la veille de Noël, et il demande que le 29 décembre, dimanche de la Sainte Famille, les évêques dans leur diocèse, en communion avec lui dans sa cathédrale qui est Saint-Jean-de-Latran, où il ouvrira la porte sainte ce jour-là, eh bien, ouvre l'année sainte. Alors, d'une manière qui est symbolique, puisque le thème c'est « Pèlerin de l'espérance », eh bien, de faire un petit pèlerinage d'une église jusqu'à la cathédrale et d'ouvrir par une messe solennelle l'année sainte dans notre diocèse ce jour-là. Dans la cathédrale, c'est moi qui présiderai évidemment cette messe, et aussi dans les co-cathédrales, donc à la cathédrale de Lescar, ce sera le vicaire général qui l'ouvrira, et à la cathédrale d'Oloron, ce sera le vicaire épiscopal de cette zone qui ouvrira l'année sainte dans cette cathédrale en communion avec moi ici à Bayonne.
Donc à la même heure, à 15h30, le 29 décembre.
À la même heure, le 29 décembre.
D'accord. Un dernier mot, Monseigneur, pour cette année sainte. On parle aussi des indulgences qu'on peut obtenir. Est-ce qu'on peut en obtenir si on ne va pas pèleriner à Rome? Enfin, quelles sont les conditions? Est-ce qu'on peut en obtenir juste dans notre diocèse?
Alors, je ne peux pas vous dire encore tout à fait les conditions, parce que le pape annonce dans sa bulle d'indiction que la grande pénitencerie romaine nous donnera des indications, hein, pour les conditions pour recevoir cette indulgence plénière. Quand on n'ira pas forcément à Rome pour franchir les portes saintes que le pape va ouvrir dans toutes les basiliques, le 1er janvier ce sera à Sainte-Marie-Majeure, le 5 janvier ce sera à Saint-Paul-en-les-Murs, mais pour autant, dans tous les lieux référencés par les évêques, essentiellement les cathédrales, mais aussi des sanctuaires, dont je donnerai la liste dès que possible, dans le diocèse, on pourra obtenir l'indulgence aux conditions qui nous seront données, mais les conditions sont toujours à peu près les mêmes, hein. On sait qu'il faut s'être confessé, avoir communié ce jour-là, faire une démarche de pèlerinage dans un lieu référencé et prier aux intentions du pape. Le pape nous redit d'ailleurs l'importance de cette indulgence qui est liée, comme on le sait, au sacrement de réconciliation. Sachant que le pape veut aussi profiter de cette année jubilaire pour remettre au centre de la vie chrétienne et donc de la vie de nos communautés le sacrement de la réconciliation. C'est là que nous obtenons le pardon des péchés, mais comme il le dit avec toute la tradition de l'Église, en se référant aussi au catéchisme de l'Église catholique, le péché laisse des marques en nous et dans le monde que nous avons blessé par nos péchés. Et donc l'indulgence, qui est le mot synonyme de miséricorde, eh bien, est la dernière invention de la miséricorde divine qui permet de puiser dans les mérites des saints, par l'intermédiaire du pape qui en a le pouvoir, eh bien, cette miséricorde pour effacer ces marques qui sont dues et qui restent de nos péchés. C'est vrai pour les âmes du purgatoire en particulier, on demande l'indulgence pour nos défunts, mais ça peut être aussi vrai pour nous, hein, qui voulons cette remise à niveau pour repartir dans l'espérance sur un chemin de résurrection.
Une date à retenir, ce sera donc le dimanche 29 décembre, la messe à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne à 15h30. Elle sera précédée d'une marche pèlerinage depuis l'église Saint-Esprit, avec le départ à 14h30. Et je précise que la messe sera retransmise en direct sur Radio Lapourdie. Nous vous retrouvons dans quelques instants.
Radio Lapourdie Iratia, votre radio chrétienne en Pays Basque.
Nous retrouvons notre évêque, Monseigneur Marc Caillé. Alors juste avant la clôture du synode, le pape François a un peu surpris tout le monde en publiant sa quatrième encyclique dédiée au Sacré-Cœur de Jésus. Vous l'avez lu, Monseigneur Marc Caillé?
Oui, tout à fait. Je l'ai lu intégralement. Et alors, j'ai même souligné beaucoup de passages.
Alors c'est un peu quand même une surprise cette encyclique, ou vous y attendiez? Est-ce que les évêques étaient au courant ou pas du tout?
Alors je crois qu'il y a eu une petite annonce qui a été faite très... quelques semaines, je pense, avant sa parution. C'est vrai qu'elle a pu être mise en lien avec le 350e anniversaire de la grande apparition du Sacré-Cœur de Jésus à cette visitandine de Paris le Monial, Sainte Marguerite Marie Lacocque, dont on reparlera après. Mais c'est vrai qu'elle a surpris. Elle a d'autant plus surpris qu'elle a un peu télescopé, je dirais, la conclusion du synode. Puisque le document final du synode a été publié le 27 octobre, je crois, et l'encyclique date du 24. Donc il y a une encyclique qui quand même est un document majeur dans le magistère pontifical, puisque c'est le plus haut degré de son magistère, avant évidemment les déclarations dogmatiques. Donc c'est dire qu'il a voulu certainement, il y a une intention. C'est pas une coïncidence si cette encyclique a été publiée quelques jours avant la fin d'un synode qui a mobilisé l'Église pendant quasiment 3 ans. Voyez, document du synode d'ailleurs que je suis en train de lire parce que il a été publié en français un peu plus tard, que le pape a admis comme tel, intégré à son magistère en y apposant sa signature, en évitant de publier une exhortation apostolique qui, évidemment, lui aurait donné un degré magistériel plus important, d'autant plus qu'il nous dit que ce rapport final du synode, qui donne des indications à mettre en œuvre dans l'Église localement et universellement, n'aura pas un caractère normatif. Donc c'est un peu inédit dans l'histoire des synodes, d'autant plus que ce synode a eu tant d'importance, puisqu'il a duré tellement de temps, avec 2 assemblées, des évêques, et puis une grande consultation, comme on le sait, au niveau des diocèses et au niveau continental, du peuple de Dieu. Donc cette encyclique sur le Sacré-Cœur, évidemment, nous a surpris tous. Et en même temps, je pense qu'elle a un caractère prophétique, et que le Saint-Père, qui a toujours été très attentif, comme on le sait, à la dévotion populaire, n'oublions pas qu'il vient d'Amérique latine, pour qui... la dévotion populaire est au cœur même de la démarche chrétienne. D'ailleurs, il va aller en Corse, comme on le sait, pour conclure un colloque sur la piété populaire, qui est si caractéristique aussi de l'île de Beauté. Il nous rappelle d'une certaine manière que par la dévotion populaire, qui est faite de beaucoup de gestes sensibles dans la vie du peuple chrétien, la foi entre dans le cœur des hommes. Et je dirais d'une certaine manière que c'est comme ça que je l'interprète pour l'instant, cette encyclique sur le Sacré-Cœur, qui va insister sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus, est une manière de donner un peu de cœur, un peu de chair à toutes ces réformes de l'Église qui sont préconisées par le synode, de manière à ne pas rester dans la structure, dans l'organisationnel, d'ailleurs le rapport du synode le précise aussi, qu'il ne s'agit pas seulement de transformer des structures, mais qu'il faut habiter ces structures et que cette réforme structurelle soit la conséquence d'un renouveau spirituel. Et finalement, cette encyclique du Sacré-Cœur, comme le jubilé qui va commencer le 24 décembre, sont justement dans la perspective de ce renouveau spirituel profond et qu'il faut donner de la chair, du cœur, le cœur du Christ, qui est source de toute grâce, pour qu'une réforme structurelle de l'Église puisse vraiment aboutir.
Est-ce qu'on peut dire que cette encyclique, enfin, que le pape François a voulu donner un antidote spirituel à un monde sans cœur, un monde déshumanisé?
Alors ça, c'est évident. Quand on lit l'encyclique, c'est vrai qu'il est très frappé, comme nous tous, par cette déshumanisation de la société d'aujourd'hui, cette déconstruction aussi de l'homme, dans ses déclinaisons les plus profondes. Ce cœur, le cœur qui est vraiment le centre intime dans la Bible, mais dans la philosophie et dans la tradition anthropologique et spirituelle, qui est le centre intime de l'homme où se nouent toutes ces opérations vitales de connaissance, d'affection, d'amour, de sensibilité, et qui redonne une certaine unité à l'homme qui, de fait, est fini par être désarticulé entre le cerveau, le sexe, l'intelligence, la volonté de puissance.
Et maintenant, et donc, l'intelligence artificielle.
Et l'intelligence artificielle en plus, voilà, et ça c'est très important, parce qu'il est aussi intervenu plusieurs fois sur ces risques, même si il y a beaucoup d'apports pour la vie de l'humanité d'aujourd'hui, mais le risque de déshumaniser, et c'est-à-dire d'enlever à l'homme son cœur. Et donc je pense que pour ça, c'est une belle réponse, tout à fait prophétique pour aujourd'hui.
Bon, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le pape va en Corse, mais n'ira pas à Notre-Dame de Paris. Vous-même, est-ce que vous irez à Notre-Dame?
Moi, je ne pourrais pas aller à Notre-Dame de Paris. Je reconnais que j'irai plutôt quand ce sera plus calme, parce que c'est une église qui me tient à cœur, dans la mesure où quand j'étais adolescent, j'étais à Paris, et j'allais à la messe à la cathédrale le soir à 18h30, après le concert de Cochereau. J'aimais bien cette messe.
Donc vous ne verrez pas ni Emmanuel Macron ni Donald Trump.
Voilà. Ben, je crois que Donald Trump ne sera pas là d'ailleurs, il me semble.
Donald Trump a annoncé qu'il viendrait.
Ah bon, finalement?
Oui, c'est tout frais de ce matin. Je précise pour ceux qui nous écoutent que nous enregistrons cette émission le 3 décembre à la fête de Saint-François-Xavier, un saint très important au Pays Basque et en Navarre.
Absolument.
Alors, je reviens à Notre-Dame de Paris. Beaucoup ont regretté que le pape ne vienne pas à Notre-Dame de Paris, et on même dit que le pape n'aimait pas la France. Pourtant, dans cette encyclique, il cite beaucoup d'auteurs spiritualité française.
Je ne crois pas que le pape n'aime pas la France. De fait, quand on lit cette encyclique, il ne cite que des saints français. Saint François de Sales, Saint Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Charles de Foucault, Saint Jean Eudes. Enfin bon, on peut pas dire que le pape n'aime pas la France. Il est très marqué, justement, cette encyclique, par la spiritualité de l'école française de spiritualité et des saints français modernes qu'il aime d'autant plus. Non, je pense au fond que si le pape ne vient pas à Notre-Dame de Paris, d'abord rappelez-vous que le pape a toujours dit qu'il viendrait surtout là où ses prédécesseurs ne sont pas allés. Bon, il a toujours dit qu'il allait aussi plutôt aux périphéries que grand centre de notre monde d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que l'ouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est une joie pour tous, et aussi pour moi, bien sûr, c'est un lieu sacré, spirituel, un haut lieu spirituel, français et même à l'échelle mondiale. Mais c'est vrai que ce qui va entourer cette ouverture, le président de la République, les chefs d'État, c'est une mondanité que le pape n'aime pas beaucoup. Et peut-être que le pape a raison de ne pas venir en Notre-Dame de Paris simplement pour cette ouverture un peu officielle et qui aura un caractère aussi éminemment politique. Et donc il a préféré sans doute aller en Corse à l'invitation de son ami le cardinal François Bustillo pour conclure un colloque sur la dévotion populaire au cœur même de la Méditerranée, qui est un thème qui lui tient très à cœur.
Puisqu'on parle de dévotion populaire, justement, nous accueillons des reliques régulièrement dans notre diocèse. L'année prochaine, ce seront les reliques justement de Sainte Marguerite Marie à la Coque, puisque c'est elle qui a vu le cœur de Jésus à Paray-le-Monial il y a 350 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de la venue de ces reliques?
Alors donc, c'est une initiative, comme vous le savez, de Monsieur Bertrand Ecomard et son équipe, qui sont chargés de la chapelle d'adoration perpétuelle de Pau, qui se situe à Sainte-Thérèse, et qui ont voulu marquer les trois grandes vocations spécifiques du chrétien, après la vocation à la sainteté, qui a été représentée par une exposition autour de la personnalité de Carlo Acutis, qui sera d'ailleurs canonisée par le pape au cours du jubilé des adolescents, fin avril.
Vous y serez, je crois.
Et j'y serai, en effet. Et, Et donc, ils ont voulu honorer les trois grandes vocations. Ça a d'abord été la vocation sacerdotale avec les reliques du cœur du curé d'Ars l'an dernier. Ce sera cette année la vie consacrée avec les reliques de Sainte Marie de Malakoff, mais qui correspond aussi à ce 350e anniversaire des apparitions du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Et l'année prochaine, en 2026, ce sera les reliques de Louis et Zélie Martin pour honorer la vocation spécifique du mariage chrétien. Là, ça tombe bien évidemment pour Sainte Marguerite Marie Lacocq à cause de cet anniversaire. On rappelle que c'est l'anniversaire principal de l'apparition principale où Jésus montre son cœur au cours d'une adoration eucharistique à Sainte Marguerite Marie et elle lui dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes » et qui n'en reçoit pourtant qu'ingratitude, à commencer par les cœurs qui lui sont consacrés, et en l'invitant, eh bien justement, à répondre amour pour amour, comme le dit très bien le pape François dans son encyclique sur le Sacré-Cœur, répondre amour pour amour, consoler le cœur de Jésus, dit le pape François, à travers leur sainte, à travers la communion du premier vendredi du mois, que le pape rappelle aussi dans son encyclique, réparer, pas tant réparer par de manière doloriste, mais réparer de manière sociale et missionnaire, en offrant sa vie, avec Sainte Thérèse d'Enfant Jésus par exemple, à la miséricorde du Seigneur.
Donc des reliques, on les vénère, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça peut paraître un peu étrange de
Alors dans la piété populaire, dans la dévotion chrétienne, les reliques sont, comme son nom l'indique, les restes des saints. Pourquoi nous les vénérons? D'abord parce que pour nous, comme vous le savez, le corps est le temple de l'Esprit-Saint. Lorsque la mort sépare l'âme du corps, nous vénérons toujours le corps de nos défunts, nous les enterrons avec beaucoup de piété, et nous ne les considérons pas comme une simple chose matérielle qui d'ailleurs va se corrompre dans le tombeau, dont l'âme s'est défaite comme si nous étions des idéalistes ou des manichéens. Non, le corps fait partie de notre humanité, nous sommes un de corps et d'âme. C'est pourquoi la mort est vécue avec beaucoup d'affliction, parce que le corps et l'âme sont faits pour se rassembler. C'est pourquoi nous croyons en la résurrection, hein, que notre corps soit d'une manière autre que physique, sans doute, c'est-à-dire des conditions spatio-temporelles dans lesquelles nous vivons sur la Terre, mais soit, à la résurrection finale, réuni à notre âme. Et donc le corps doit toujours être entouré, que ce soit celui des saints ou celui de nos défunts. Nous allons nous recueillir au cimetière, par exemple. Il nous relie, hein, c'est nous relie à la personne tout entière de nos défunts et à la personne tout entière de nos saints qui ne sont pas encore ressuscités, mais dont les reliques sont là pour attester non seulement de la personne nadité de du saint que nous vénérons, mais aussi de son message. Voilà. Et nous avons besoin de signes parce que nous sommes des êtres non pas désincarnés, mais des êtres de chair et de sang. Et donc c'est pourquoi on insiste dans l'Église, depuis toujours, sur la vénération des reliques. On n'en fait pas des lieux d'adoration, bien entendu, hein, on les vénère à leur juste place, mais pour se relier à la totalité de la personne des saints que nous vénérons.
Écoutez Radio Lapourdi Iratia en numérique en DAB+, sur la côte basque et le sud des Landes.
Les évêques de France réunis à Lourdes du 5 au 10 novembre ont publié une lettre pour l'année sainte en la couplant, si on peut dire, avec le 1500e anniversaire du concile de Nicée. Vous avez bien sûr signé cette lettre avec vos confrères. Pourquoi cette lettre?
Alors je pense que les évêques ont voulu d'abord adresser au peuple de Dieu, à commencer par ceux qui sont les prêtres, les diacres, les responsables aussi, des différentes pastorales dans nos diocèses, les acteurs pastoraux, on pourrait dire, et puis à l'ensemble du peuple de Dieu, une lettre pour les encourager évidemment à vivre cette année sainte, et en particulier à célébrer ce 1700e anniversaire du premier concile œcuménique qui s'est passé à Nicée, qui aujourd'hui est une ville qui se trouve en Turquie, qui a été convoqué par l'empereur Constantin à l'époque, c'est en 325, et où les évêques et le pape ont participé pour répondre à une crise de la foi assez importante qui a été inaugurée dans l'Église par un certain Arius, qui est un prêtre d'Alexandrie, et qui prétendait que Jésus n'était pas fils de Dieu, qu'il était un homme, peut-être un surhomme choisi par Dieu, mais qui n'était pas le Fils de Dieu. Et il était très important dans ce concile de déclarer que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, selon l'expression qui a été canonisée par ce concile et que nous disons dans le credo dit de Nicée-Constantinople, le dimanche à la messe, est consubstantiel au Père. Alors, c'est une traduction qui a été remise à l'honneur par la traduction corrigée du missel romain, comme vous le savez. On disait de manière un petit peu vraie sans doute, mais pas complète, de même nature que. Bien sûr que nous sommes de même nature les uns et les autres, tout en n'étant pas un. On est tout à fait individué. Que le Jésus soit de même nature que Dieu, c'est vrai, que le Père, mais c'est pas suffisant parce que Dieu est un. Il y a trois personnes, mais il n'y a pas trois dieux. Et donc c'était très important de préciser que Jésus est Dieu, une personne distincte du Père et de l'Esprit Saint, mais partage avec le Père la même substance divine. Voilà pourquoi on dit consubstantiel, homoousios en grec, qui est un terme qui évidemment n'est pas anodin. Et qui nous engage aussi, et qui transforme aussi notre conception de Dieu. C'est pourquoi il a été trouvé opportun par les évêques de France de rappeler qui est Jésus et qui nous donne aussi une autre représentation de Dieu que l'on peut se faire aujourd'hui, en particulier à la faveur de certains monothéismes, comme celui de l'islam, qui devient prégnant dans notre société d'aujourd'hui. Nous croyons la transcendance de Dieu, mais nous ne croyons pas en un Dieu tellement séparé des hommes qu'il n'est pas capable de venir jusqu'à nous et que nous ne pouvons pas entrer en relation d'intimité avec lui. Et nous croyons, nous, que ce Dieu transcendant, eh bien, s'est fait homme en Jésus-Christ, que Jésus ne cesse pas d'être Dieu, sous prétexte qu'il assume notre humanité et qu'il assure cette proximité entre Dieu et l'homme qui peut sauver l'homme. Voilà. Et donc, ça nous a paru très important de rappeler, à travers cette lettre, pour la célébration de ce centenaire, ce 1700e anniversaire du Concile de Nicée, de nous redire quelles sont les conséquences de notre foi en Jésus, qui est le Fils de Dieu et qui assume, par sa mort et sa résurrection, le salut du genre humain.
Monseigneur Marcaille, revenons à l'Assemblée des évêques à Lourdes du 5 au 10 novembre. Quels ont été, en quelques mots, les dossiers que vous avez abordés avec vos confrères évêques ?
D'abord, on a vécu une assemblée plénière très paisible et très fraternelle. On a eu cette année plusieurs dossiers, sans doute, mais plusieurs angles sur le thème de la mission. D'abord, on a reçu, c'est vrai, un témoignage important qui était celui du patriarche de l'Église grecque catholique d'Ukraine, qui nous a bien parlé un peu de la situation des catholiques en Ukraine, dans les conflits que nous connaissons. Il a présidé d'ailleurs une messe en rite byzantin, sur la liturgie de Saint-Jean Chrysostome, que nous avons concélébré comme nous avons pu. Il y avait un petit livret en français et la plupart des prières dites par les célébrants étaient en français. Et donc ça a été intéressant, d'échanges avec lui sur la situation de l'Ukraine. Ensuite, nous avons reçu 4 évêques africains, le cardinal Abongo, qui est l'archevêque de Kinshasa au Congo, la République démocratique du Congo, mais qui se trouve être aussi le président du CHEAM, c'est-à-dire le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, et avec l'archevêque de Kigali, un évêque du Mozambique, et l'archevêque de Kupela au Burkina Faso. Pourquoi on avait besoin de leur témoignage par rapport aux prêtres fidédonum dont nous bénéficions du ministère dans beaucoup de nos diocèses en France, et de savoir comment les associer davantage à la mission présente, qui évidemment ne se présente pas de la même manière qu'en Afrique. Et donc c'était intéressant d'entendre leur point de vue et aussi leur demande d'un plus grand partenariat pour préparer ces prêtres qui viennent de chez eux au choc culturel qu'ils vont prendre de plein fouet lorsqu'ils arrivent dans nos églises de vieille chrétienté, et comment nous mieux les associer à notre démarche missionnaire. Donc ça donnait lieu aussi à des carrefours l'après-midi entre évêques pour discuter de notre expérience des prêtres Fide et de Noum, qui encore une fois nous apportent une précieuse collaboration. Ensuite, nous avons aussi reçu les responsables nationaux des trois grands mouvements de scoutisme catholique en France. Ça, c'est une première, et ça a été un moment de grande fraîcheur au sein de cet hémicycle, et pour moi assez prophétique, parce qu'il y avait les responsables des scouts de France, des guides de France, les responsables des guides et scouts d'Europe, les responsables des scouts unitaires de France, avec leurs aumôniers respectifs, et ils ont parlé chacun au nom des trois. Donc ils avaient bien préparé ensemble les choses, et donc dans un grand esprit de fraternité scout, eh bien par exemple les scouts de France ont parlé de l'évangélisation, mais au nom des trois mouvements, les scouts d'Europe ont parlé de la synodalité dans leur mouvement au nom des trois mouvements, et les scouts unitaires de France ont parlé de l'engagement des scouts et des guides dans la vie ultérieure au nom des trois mouvements. Ça a été un moment de fraîcheur. On a tous été invités d'ailleurs à se dénoncer si on avait été scout, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de prêtres qui viennent du scoutisme et beaucoup d'évêques. Donc on a tous fait le salut scout et on s'est vu qu'on a pu voir qu'il y avait au moins des deux tiers des évêques qui avaient fait du scoutisme dans l'un ou l'autre de ces mouvements. Et on a tous chanté enfin la prière scout. Donc c'était un beau moment prophétique et c'est important parce que, comme vous le savez, les mouvements de scoutisme, quels qu'ils soient, sont les seuls mouvements de jeunesse qui sont en croissance dans l'Église aujourd'hui et qui évidemment sont des lieux particuliers d'évangélisation.
D'ailleurs, dans notre diocèse, on a les trois mouvements qui sont
représentés. On a les trois mouvements qui sont représentés, absolument.
Nous vous retrouvons dans quelques instants. Monseigneur Marc Caillé, nous parlerons de la vie du diocèse.
Pour soutenir Radio Lapourdi Iratia, je fais un don avant le 31 décembre.
Envoyez votre chèque à l'ordre de Radio Lapourdi par courrier au 9 rue des Prébendés à Bayonne avant le 31 décembre pour recevoir un reçu fiscal.
Par avance, merci à tous.
Monseigneur Ayen, nous terminons avec vous cette émission en parlant des événements du diocèse. Il y en a eu beaucoup, il y en aura d'autres. Notamment, il y a eu la Nuit des Témoins le 21 novembre à la cathédrale de Bayonne, Nuit des Témoins que vous avez présidée avec l'AED, donc l'aide à l'Église en détresse.
Donc chaque année, une semaine de novembre, l'aide à l'Église en détresse France organise cette fameuse Nuit des Témoins. Je crois que ça fait 15 ans qu'ils organisent ça, dans 5 lieux en France. Cette année, c'était Rennes, Laval, je crois. Non, Rennes, Versailles, Paris, Ajaccio et Bayonne. Voilà. Et j'étais très surpris, même si la communication était très bien faite par notre service de communication, précisément, même si la presse locale ne nous a pas beaucoup aidés parce qu'elle n'en a pas parlé, mais qu'importe, je me disais, mais il va y avoir personne un soir comme ça de novembre. Il pleuvait à verse au début de la Vie des Témoins. Et en fait, la cathédrale était pleine. Et au dire des organisateurs de l'AED, ils avaient été frappés par la présence des jeunes. Il y avait tout un groupe de jeunes professionnels, de sacrétois, de routiers qui faisaient le service. Et donc ça faisait quand même une belle participation jeune aussi à cette assemblée de prières. Et surtout, pour sensibiliser les chrétiens d'ici à ce que vivent les chrétiens qui sont en situation de persécution dans le monde. Comme nous savons, il y a 360 millions de chrétiens qui sont persécutés ou discriminés à travers le monde, dans des pays où il y a même des assassinats. Il y a eu à peu près une vingtaine de prêtres qui ont été assassinés en 2023. Et donc, c'est en hommage à ces chrétiens qui meurent pour le nom du Christ et qui vivent des situations de persécution, et ils font venir à chaque fois trois témoins d'églises persécutées. Donc, qui vont parler à visage découvert, peut-être pour certains au risque de leur vie. D'ailleurs, la religieuse qui devait venir du Burkina Faso pour témoigner n'a pas pu venir, précisément à cause des risques encourus. Et c'est un prêtre burkinabé qui est originaire de cette région de l'Est, Kaya, du Burkina Faso, qui est l'objet de beaucoup de persécutions, d'assassinats, de hordes djihadistes, terroristes qui viennent envahir les villages, qui est venu parce que lui aujourd'hui est en France, même s'il revient régulièrement dans sa famille à Kaya. Et puis un évêque du Pakistan qui est le président de la conférence épiscopale du Pakistan, où, comme on le sait, les catholiques sont en très petite minorité, 2% sur 90% de musulmans, avec des vexations, des accusations de blasphème et des emprisonnements et des assassinats extrêmement fréquents. Et lui, quand je lui ai dit, ça vous fait pas peur de retourner dans votre pays, après avoir parlé comme ça, j'ai découvert, il dit, si, j'ai toujours un peu peur, mais je suis là pour dénoncer aussi, comme président de la commission justice et paix au Pakistan, toutes les exactions qui sont commises contre les catholiques. Et enfin, un prêtre qui venait d'Arménie, qui retourne d'ailleurs en Arménie, et qui nous a parlé aussi de cette situation terrible et dramatique, de ces Arméniens qui ont été expulsés par les Azéris musulmans du Haut-Karabagh, la première nation chrétienne, on peut dire, l'Arménie, et qui sont encore soumis à des exactions, puisque l'Azerbaïdjan continue d'essayer de grignoter le sud de l'Arménie en provoquant des déplacements de population terribles.
Autre événement que vous avez présidé, Monseigneur, récemment, c'était la JDJ, donc Journée diocésaine des jeunes, qui était d'ailleurs sur 2 jours, un peu en préparation du jubilé des jeunes à Rome. C'était à Naï, je crois, cette année.
Alors c'était à Naï, c'est Monsieur Yves Ginesta, qui est le directeur du lycée de Naï, Saint-Joseph, qui est l'ancien petit séminaire du Béarn, qui nous a ouvert ses portes gracieusement. Et nous avons vécu une très belle journée diocésaine des jeunes. Il n'y avait pas une quantité astronomique de jeunes, c'est vrai que c'était loin, c'était à Naï. La date des JMJ qui a été ramenée des rameaux au Christ-Roi par le pape François n'est pas forcément la date la plus facile pour mobiliser les jeunes. Mais il y avait un très bon groupe de grands lycéens, de jeunes pros et d'étudiants, et dans un excellent esprit. On a été très frappé par la ferveur, la joie, la soif aussi spirituelle de ces jeunes, de plus en plus, à travers ce qu'on leur propose. Et on a eu 2 témoins, de Bayonne d'ailleurs, qui sont 2 jeunes professionnels, qui sont revenus à la foi au moment du Covid, pendant le confinement, à travers Internet, le frère Paul Adrien, sur TikTok ou Instagram, je sais plus très bien, enfin qu'importe. Et puis ils sont venus pour la première fois, ils se sont dit on va aller à la messe. Ils ont grandi dans un milieu athée, familial athée, et ils sont allés à Saint-André. Et du coup, ils sont entrés dans la communauté, ils ont suivi la catéchèse, se préparent la confirmation, et ils ont témoigné devant les autres jeunes de la manière dont ils ont été touchés par le Seigneur et qui maintenant est au centre de leur vie.
Pour vous, c'est un signe d'espérance, ces jeunes qui reviennent
vraiment,
à la foi.
Vraiment, vraiment. Oui. Je crois que si l'Église de vieille chrétienté continue à connaître une certaine hémorragie, parce qu'il y a de moins en moins d'enfants qui sont baptisés, parce que les générations qui ont précédé n'ont pas vraiment transmis la foi, et donc se lamentent aujourd'hui d'avoir des enfants qui ne vont plus à la messe et des petits-enfants qui ne sont plus baptisés. Par contre, on voit que notre communauté, nos communautés chrétiennes, quand elles proposent vraiment la foi, attirent de nouveaux venus. Les catéchumènes adultes sont de plus en plus nombreux. Les jeunes vont là où ils sont nourris spirituellement. Et on les voit pratiquer davantage. Alors, c'est pas des majorités de jeunes, bien sûr, mais je crois que c'est un grand signe d'espérance, même si ça ne touche encore qu'une petite... portion de cette jeunesse.
Et puis, vous avez aussi participé aux veillées pour la vie. Je vous avais été à celle de Bayonne, je crois. Il y a eu des veillées pour la vie, donc le 30 novembre. Ça, c'est à l'appel de Jean-Paul II, ces veillées pour la vie.
C'est Benoît XVI.
Benoît XVI qui
avait lancé cette initiative la veille du premier dimanche de l'Avent, de préférence. On le comprend d'ailleurs, le temps de l'Avent, c'est le temps de l'attente de la naissance du Christ. Donc, c'est le temps de la gestation du Verbe fait chair dans le sein de Marie. Qui d'ailleurs donne une éminente dignité à l'homme dans son état d'embryon, de fœtus, d'enfant à naître, de nouveau-né. Et c'est la raison pour laquelle le pape Benoît XVI, à la suite des exhortations évidemment de Jean-Paul II sur la prière pour la vie dans Evangelium Vitae, a proposé des veillées de prière pour la vie la veille du premier jour de l'Avent. Donc cette année, il y en avait à plusieurs endroits, à la cathédrale, à Saint-Jean-de-Luz, à Orthès et à Saint-Joseph-de-Pau.
Et on est dans la
droite. Yanaï, chez les Béatitudes.
On est dans l'idée du pape François pour l'année sainte, justement, de défendre la vie.
Voilà.
Ça fait partie des trois signes dont vous nous avez parlé en début
d'émission. Mais tout à fait. Comme Saint Jean-Paul II, dans son encyclique Je m'invitais, nous dit, il faut annoncer, célébrer, prier, et servir l'évangile de la vie.
Le 8 décembre tombant un dimanche cette année, l'Immaculée Conception sera solennisée le lendemain, le lundi 9 décembre. Il y aura une messe à la cathédrale de Bayonne.
Voilà, une messe à la cathédrale de Bayonne et suivie, si le temps le permet évidemment, d'une petite procession mariale, hein, comme on a maintenant pris l'habitude. Et c'est vrai que là aussi, on voit bien que les démarches de piété populaire se ressuscitent d'une certaine manière dans l'Église de manière générale. Hein. Plus en plus de processions. Alors, certains y voient des retours en arrière. Non, c'est le peuple de Dieu hein, qui adhère facilement à cette proposition. Et donc, ça veut dire que c'est le sens de la foi qui s'exprime aussi à travers ces résurgences de piété populaire qui, évidemment, doivent être bien encadrées et pour ne pas tourner à la superstition, doivent être vraiment évangélisées et reliées hein, à la grande dévotion chrétienne, qui est d'abord la liturgie.
Donc vous présiderez la messe le 9 décembre à 18h à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, et ensuite donc, il y aura, si le temps le permet, comme vous l'avez dit, une procession jusqu'à l'église Saint-André de Bayonne.
Voilà.
Et il y a d'autres endroits dans le diocèse où il y aura des processions, notamment Notre-Dame d'Abbette, je crois.
Oui, tout à fait.
Voilà. Monseigneur Haye, nous arrivons au terme de cette émission. Dans quelques jours, nous célébrerons Noël. Où serez-vous cette année ?
Comme d'habitude, je serai le soir à minuit. Alors d'abord le matin, je serai à la prison, à la maison d'arrêt de Bayonne.
Le 24.
Le 24 au matin. Ça, pour moi, c'est très important que d'aller célébrer la messe chez les détenus. Quelques jours avant, je serai à Pau. Parce que le Christ est apparu d'abord à ceux qui étaient un peu et repoussés en dehors des villes, hein, les bergers de Bethléem. Et puis le soir à minuit, je priserai la messe à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Et le lendemain, jour de Noël, je serai à Saint-Léon d'Anglette.
Voilà. Merci beaucoup, Mgr Haye. Un rendez-vous, on peut le redire. Donc, lancement de l'année sainte dans notre diocèse, c'est le dimanche 29 décembre. Dimanche à Sainte-Famille. Rendez-vous à 15h30 à la cathédrale pour la messe. Mais il y aura une marche pèlerinage qui démarrera à 14h30. Le 29 décembre, donc, de l'église Saint-Esprit de Bayonne.
Et également à la cathédrale de Lescar et à la cathédrale de Loron à la même heure.
15h30.
Permettre au Béarnais de ne pas être obligé le 29 décembre de venir jusqu'à Bayonne.
Voilà, donc cette messe, le 29 décembre, dans les trois cathédrales du diocèse, à 15h30.
Voilà.
Merci beaucoup, Mgr Marc Haye.
Merci
beaucoup, Violaine Ricourt-Dumas. Merci à nos auditeurs et très bonne marche vers Noël à toutes et à tous.
Et merci, Alexandre.